Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 3. La famine était intense à Samarie. Achab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Alors Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton seigneur, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à ton seigneur, voici Élie, mais il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Amen. J'aime beaucoup ce texte parce que, au-delà des années qui ont passé, il nous rappelle que l'on peut rester serviteur de l'Éternel au milieu et à côté de gens corrompus. J'aime beaucoup ce texte parce que il me rappelle que même si certains fléchissent le genou devant les Baals de notre société, il y en a toujours qui restent debout et qui, malgré les combats, malgré ce qu'ils peuvent contempler, continuent à rester fidèles à l'Éternel. Le contexte de ce passage est connu de tous. Israël est gouverné par un roi inique et par une reine inepte. Israël connaît un temps de famine qui a pris naissance alors que Dieu a demandé à Élie de prier afin que la pluie ne vienne pas. Et cela a généré une sécheresse et ensuite une famine. Et Achab se creuse la tête pour savoir comment faire pour que son peuple survive, comment faire pour que les animaux ne soient pas abattus. Et donc, il va envoyer Abdias chercher à droite, chercher à gauche, de manière à trouver des points d'eau et des lieux de subsistance pour le bétail. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Allumez votre télévision et vous verrez que nous sommes dans des temps difficiles. Regardez ce qui se passe autour de nous et nous verrons, nous contemplerons que nous sommes dans des temps difficiles. Mais comme j'aime à le prononcer, comme j'aime à le dire et à le rappeler, Jésus l'a annoncé. Nous n'avons pas à en être étonnés, de la même manière que Abdias ne devait pas être étonné de voir la famine venir, étant donné que Élie avait annoncé ces temps sans pluie. De la même manière, nous n'avons pas vocation à nous étonner de ce qui se passe dans notre société, à ce qui se passe dans notre monde. Mais souvenons-nous de l'attitude que nous devons avoir, c'est lever notre tête et nous préparer au retour du Seigneur Jésus qui est proche. Et dans cette période du peuple d'Israël, l'idolâtrie est présente. Et dans notre société, de la même manière, bien des idoles modernes ont été dressées. Pourtant, comme du temps d'Élie, aujourd'hui, Dieu s'est trouvé des hommes qui sont restés fidèles. Et j'en ai une grosse centaine devant moi. Comme du temps d'Élie, Dieu s'est réservé des hommes et des femmes qui maintiendront la foi au centre de leur vie. Comme du temps d'Élie, il y a Élie à qui il a beaucoup été confié, et puis il y a Abdias, qui est quasiment un anonyme, qui est quasiment quelqu'un que l'on oublie lorsque on lit la parole de Dieu. On se connaît tous, Élie. On connaît tous les exploits d'Élie, notamment au Carmel, On connaît tous même la dépression d'Élie et le relèvement en trois phases qu'il va connaître. Mais qui se souvient d'Abdias ? Abdias est un personnage extrêmement ambivalent et on va réfléchir un petit peu sur trois points qui le concernent. Première chose, quelques généralités, 5 ou 6 sur lesquelles nous allons rapidement passer. Abdias est un prénom qui est extrêmement répandu, notamment dans l'Ancien Testament, et qui a comme signification « serviteur de l'Éternel ». C'est un beau nom, hein ? Spurgeon dira d'Abdias que c'était un croyant effacé, mais fidèle et affermi. Et première observation, c'est que Abdias est un prénom qui est extrêmement répandu, et j'ai envie de dire que c'est l'image même du fait qu'il y a beaucoup de serviteurs. Et je crois qu'il y a plus de serviteurs de l'Éternel authentiques que ce que l'on peut voir. Je crois qu'il y a plus de serviteurs que ce que l'on peut croire. Il y a ce que nos yeux voient, il y a ce que nos yeux contemplent. Mais je pense que, vu de la fenêtre du ciel, en réalité, eh bien, Dieu voit beaucoup plus de serviteurs que ce que nous pouvons voir. L'Église est composée de serviteurs. Le service ne se limite pas, et je le répète, à la musique, à la prédication, à l'école du dimanche, au ménage. Mais le service, c'est vraiment une notion qui embrase notre vie chrétienne, qui vient de manière endogène, qui vient de manière totalement automatique lorsque nous nous convertissons. Il y a plus de serviteurs que ce que l'on peut croire. L'Église en est remplie, et elle est remplie d'anonymes. J'aime bien prêcher sur ce thème, j'aime bien le rappeler. Les hommes et les femmes qui, peut-être, ne sont pas connus. À côté de vous, il y a un homme, une femme dont vous ne connaissez peut-être même pas le prénom. Mais pourtant, c'est un serviteur. Pourtant, c'est une servante de l'Éternel. On connaît tous l'apôtre Paul, mais est-ce que nous connaissons le nom de ses collaborateurs ? Est-ce que nous connaissons le nom d'Onésime, dont il est dit, et j'aime beaucoup ce passage, lorsque Paul écrit à Timothée que il a beaucoup consolé l'apôtre Paul. Extraordinaire. L'Église a besoin d'anonymes. D'hommes et de femmes qui, peut-être aux yeux des hommes, ne sont pas connus, dont le service n'est pas reconnu, mais qui pourtant sont fidèles. Qui pourtant, même s'ils sont effacés, maintiennent une constance. Mon frère, ma sœur, enlève de ton cœur la frustration. Enlève de ton cœur ce sentiment de dire « je ne suis utile à rien ». Enlève de ton cœur ce sentiment de dire « je ne suis qu'un Abdias ». Personne ne se souviendra de moi lorsque j'aurai quitté cette terre. Je n'aurai pas marqué ma génération. Elle est orgueilleuse cette personne. Non, elle est humaine. On a tous besoin quelque part de laisser une trace. Mon frère, ma sœur, anonyme aux yeux des hommes peut-être, mais précieux aux yeux de Dieu. Élie, alors qu'il est dans sa pleine dépression, dira « mais je suis resté seul, je suis resté seul ». Et à chaque fois que je lis ce passage, ce matin encore, j'avais envie de lui rappeler « Élie, mais il y a Abdias ! Il y a Abdias !» Et titre personnel, quand dans le ministère ça va plus ou moins bien, vous savez, il y a des moments où ça va plus ou moins bien, hein. Ce qui fait tenir un pasteur debout, c'est tous les anonymes qui composent l'Église et qui fidèlement marchent avec Dieu. Abdias, personne ne s'en souviendra. Pourtant, il a été précieux aux yeux de Dieu. Deuxième généralité sur Abdias, c'est que nous sommes tous appelés à être des Abdias, c'est-à-dire des serviteurs de l'Éternel. Tous. La belle-mère de Pierre, lorsqu'elle va être guérie par Jésus, quelle est la première chose qu'elle va faire ? Aller prendre une douche ? Non, elle va se lever et le servir. Extraordinaire ça. Elle va se lever et le servir. Et ça doit être dans notre génome de dire « Seigneur, j'ai envie de te servir. » Alors, et ça c'est la troisième généralité que j'aimerais aborder, c'est de dire « Mais ok, j'aimerais te servir, mais la seule chose que je peux faire, c'est d'être fidèle dans ma vie tous les jours, fidèle aux réunions. ça sert à quoi ? Voilà, je suis très pris par mon travail. Voilà, je suis un petit peu âgé, j'ai au moins 38 ans. Et voilà, j'ai déjà un petit peu mal quelque part, à droite, à gauche, etc. Mais à quoi, comment, à quoi ça sert d'être juste fidèle ? Vous êtes déjà posé la question ? Aux yeux des hommes et aux yeux des principautés, aux yeux de Dieu, à quoi ça sert d'être juste fidèle ? Parce qu'on le vit souvent comme une frustration, mais en réalité, c'est un grand trésor. Premièrement, être juste fidèle, ça sert à être un témoignage à la gloire de Dieu. Je vais prendre l'exemple d'être fidèle aux réunions, mais c'est un exemple qui sert d'appui à une réflexion plus large, d'accord ? Être assis sur sa chaise, et je le schématise, vous voyez, c'est montrer aux nouvelles personnes qui rentrent, waouh, il y a quand même des gens qui écoutent l'évangile de temps en temps, dans un monde comme le nôtre. Waouh, c'est extraordinaire. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de monde ? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'y passe. C'est déjà être là. C'est plus que remplir une chaise. Rouge. C'est véritablement témoigner à mon frère, ma sœur, qu'il a bien fait d'être là. C'est témoigner aux nouvelles personnes qui viennent. Voilà, ici, ben, moi je crois et je vais le prouver en étant là. C'est basique. Mais dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, il en va de même. Nous sommes là, présents. Comme un enfant de Dieu et vivant comme un enfant de Dieu, fidèlement. Et même si personne ne nous pose de questions, nous sommes le témoignage de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Deuxième point, à quoi ça sert d'être tout simplement là, présent, fidèle, dans notre position de chrétien ? C'est un positionnement spirituel. Devant les principautés, mais également devant Dieu, de dire, Seigneur, quelles que soient les tempêtes que je traverse, je veux rester présent. Je veux rester présent. Je veux rester fidèle. J'ai confiance en toi. Et je sais que ta grâce me viendra en aide. Seigneur, rien ne me séparera. Ta parole dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je l'aime bien ce verset. Eh bien, je le prouve. En restant dans cette position spirituelle et en attestant les choses de manière concrète. Ma vie est non seulement un témoignage physique, mais c'est également un témoignage spirituel. Et troisièmement, ça prouve qu'on a une soif. Quand on reste longtemps dans un lieu, ça prouve qu'on a soif de quelque chose. C'est vendredi dernier, je crois. Avec Myriam, on était allé faire deux courses à Paris 10, et on se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de monde dans la galerie marchande ? Et là, il y avait une queue pas possible devant le centre culturel. Et tiens, les gens se remettent à lire, c'est bien ça. Et en fait, on a vu un panneau dédicace de Laurent Gérard. Et ces gens, ils étaient capables de faire 2h30 de queue ou 1h30 de queue pour avoir une dédicace. Ils avaient soif d'avoir une dédicace d'un humoriste. Et pendant qu'on marchait, c'est une réflexion très pastorale. Je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas la même. De dire, mais Seigneur, et dire que pour nous, parfois, c'est dur de prier une heure. Rester en place. Rester fidèlement. Dans ce que l'on croit, dans ce que l'on est, dans notre quotidien. C'est également témoigner à notre Dieu. Écoute Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Tu te souviens de cette brave dame ? Cette brave sœur, j'étais stagiaire à l'époque, donc je n'avais pas trop le droit de répondre quand aux objections des chrétiens de peur de me faire taper sur les doigts par mon maître de stage. Ça a bien changé depuis. Et elle me disait, oh, vous savez frère, les réunions d'évangélisation, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà tellement entendu prêcher que je connaissais par cœur. En moi-même, je me disais, c'est bien dommage, tu aurais bien besoin de te convertir. Mais, bon, je me suis abstenu, j'étais plus sage qu'à l'époque, j'étais plus sage que maintenant. Son cœur était fermé, il manquait une soif. Être fidèle et ne rien faire. Du moins, être en place, c'est déjà faire quelque chose. C'est déjà faire quelque chose. Quatrième point que j'aimerais souligner, toujours dans ce premier point des généralités, nous sommes appelés à servir l'Éternel dans le contexte dans lequel nous vivons. Abdias servait l'Éternel à côté d'Akab. Est-ce qu'on peut trouver pire situation pour servir l'Éternel ? À côté d'Akab. Il devait manger peut-être à la table d'Akab, aller dans le bureau d'Akab, écouter à Akab. Et lui, Abdias, il était là et dans sa tête, il disait « Où est-ce que je vais cacher les prophètes de l'Éternel ?» Peut-être que si j'avais été son pasteur, j'aurais dit à Abdias, écoute Abdias, si ta main gauche est une occasion de, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la, va peut-être te cacher parce que là c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour toi là, Abdias. Peut-être. Mais la parole de Dieu nous dit que pourtant, Abdias va servir l'Éternel dans ce contexte-là. Avons-nous des Akab à côté ? Nous sommes appelés, Jésus le dit, à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Et notre saveur ne trouvera de place qu'à partir du moment où nous serons là où Dieu nous a placés. Il n'y a pas de hasard. Mon frère, ma sœur, si tu es placé dans cette famille, il n'y a pas de hasard. Si tu as été placé dans ce lieu de travail, dans ce voisinage, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de hasard. Si tu as été placé dans cette église, dans ce quartier, il n'y a pas de hasard. Mais c'est tout simplement parce que tu y as ta place et que c'est là que l'Éternel veut que tu serves. C'est là que l'Éternel veut que tu t'impliques. C'est là que l'Éternel veut que tu donnes ta saveur, que tu donnes ta personnalité, que tu donnes ce que tu as reçu. Abdias servait aux côtés d'Akab. Plus le plat est fade, et plus le sel est utile. Merci Seigneur de m'avoir placé dans une entreprise bien fade, parce que je suis utile, et en priant pour elle, eh bien, je suis comme une digue qui empêche les choses de s'écrouler. Vous pouvez bénir votre entreprise en priant pour elle. Merci Seigneur pour ma famille, même si voilà, j'ai une belle sœur, même si j'ai une mère, même si j'ai un père qui est vraiment dur avec moi. Seigneur, je continuerai à te servir. Je continuerai à être appelé serviteur de l'Éternel. Cinquième point, Akab. Connaissez l'Éternel depuis sa jeunesse. Et ça, je trouve ça beau. Il n'avait pas simplement été présenté par une bénédiction. Ça ne se faisait peut-être pas à l'époque. Je transfère dans notre contexte bien pentecôtiste, bien ADD, bien pensant. Mais il avait été enseigné dès sa jeunesse. C'est ce que nous dit ce texte et c'est ce qu'il dit à Élie. Il avait reçu une éducation chrétienne. Et c'est une très bonne chose parce que c'est la garantie d'avoir vraiment le choix. Notre société éduquera les enfants dans un contexte païen, entre guillemets, en leur expliquant que Dieu existe peut-être, mais sûrement pas. Charge à nous d'enseigner nos enfants. Au travers d'une vie chrétienne. Et je pense que les parents d'Abdias lui avaient appris plus que l'existence de Dieu. Et là, je m'adresse particulièrement aux parents, peut-être. Lui avaient appris plus que l'existence de Dieu, lui avaient appris plus que l'amour de Dieu, lui avaient appris plus que le fait que, eh bien, il aurait vocation à un jour marcher dans la loi de l'Éternel. Ils avaient appris à Abdias ce que c'était que l'amour de la consécration et l'amour du service. Je pense et j'imagine bien que si Abdias est devenu le serviteur de l'Éternel, c'est parce qu'il a grandi aux côtés de serviteurs. Qu'il a grandi aux côtés d'hommes et de femmes qui ont voulu enseigner, lui enseigner cela. Si Abdias était serviteur, c'est parce qu'il a appris à l'être. Je vais être un peu dur. Je vois des jeux, oh, ça se redresse déjà sur la chaise. Je viens de récupérer la moitié de mon auditoire, ça y est. Comment voulez-vous que nos enfants aiment l'Église si nous ne leur apprenons pas à l'aimer en l'aimant nous-mêmes? Je bénis Dieu parce que jamais mes parents n'ont dénigré l'Église, pourtant ils étaient pasteurs. Comment voulons-nous que nos enfants apprennent la consécration si on oublie de leur expliquer que c'est bien de laisser tomber la déesse et qu'éventuellement, les réunions, ça peut être quelque chose d'important. Éventuellement. Comment ? Comment leur apprendrons-nous que la prière, c'est important ? S'ils ne nous voient jamais prier. Ou si les réunions de prière, c'est quelque part quelque chose d'accessoire. Vous me suivez ou pas? Ça vous choque ce que je vous dis? Non, pas du tout. Donc ça ne vous dérange pas que je prenne des gants pour le dire? Donc je peux aller plus loin? Pas de souci? D'accord. Comment nos enfants apprendront-ils l'amour de Dieu quand nous ne le manifestons pas dans nos foyers? Comment apprendront-ils le pardon quand nous ne l'exerçons pas envers eux et envers ceux qui nous entourent? Je peux continuer? Comment se convertiront-ils si on ne leur enseigne pas les bases élémentaires de ce qu'est une vie d'Église et de ce qu'est l'amour de la parole de Dieu? Si on les maintient dans leur petit confort, en leur disant « c'est bien mon gars, c'est bien ma fille, reste au lit ». Abdias, s'il en est arrivé là. Abdias, s'il en est arrivé là. C'est parce qu'il a reçu une éducation, mais pas simplement quelque chose, on l'emmenait pas simplement à l'école du dimanche. Mais à la maison, il y avait des choses de vécu. Et ça, c'est l'enfant de chrétien qui parle. Ce qui m'a permis de me convertir, c'est le témoignage de mes parents. Parce que le matin, quand je me levais à 5 heures pour aller aux toilettes, ou que je rentrais de fête, en faisant le mur, je trouvais mon père à genoux dans le canapé ou dans son bureau. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué mon cœur. Conversion de nos enfants. Conversion de nos familles. C'est avant tout une question de témoignage. C'est avant tout une question de témoignage. Que le Seigneur nous aide. Et là, je suis en train d'exploser complètement mon timing. Et ce qui a ensuite emmène directement au deuxième point. Abdias craignait l'Éternel. Abdias ne se contentait pas d'aimer Dieu, mais il craignait l'Éternel. Alors, il ne le craignait pas d'une peur panique. Il ne le craignait pas d'une peur un petit peu languissante, vous savez, en disant « Ouh là là, si je fais pas bien, Dieu va me taper sur les doigts !» Non. Mais Abdias avait du respect pour Dieu. Comme je le dis souvent, et j'aime bien cette image, Abdias, comme nous devons le vivre, savait que Dieu était notre ami, ou que Jésus était notre ami, restons doctrinal, mais qu'il n'était pas notre copain. C'est une relation qui est complètement différente. Jésus est notre ami. Et on a cette dimension de la grâce. Merci Seigneur parce qu'il nous a aimés et qu'il nous aime toujours tel que nous sommes. Merci Seigneur parce que eh bien, la croix est debout et que même malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos péchés, la croix reste toujours debout, qu'il est toujours prêt à nous pardonner, qu'il est toujours prêt à faire de nous eh bien, de nouvelles créatures, qu'il est toujours prêt à nous régénérer à nouveau, à nous transformer en nouveau, qu'il est toujours prêt à nous libérer, qu'il est toujours prêt à nous bonifier. Ça, c'est une certitude. Amen. C'est certain. C'est une réalité. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime tels que nous sommes. Il aime Gilles. Oui, Pélagie. Dieu aime ton mari. C'est extraordinaire, ça. T'y crois pas, hein? Ah, tu crois. T'as raison. Ton mari est exceptionnel. Dieu aime ma belle-mère. Amen. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Le Père attendait le retour du Fils prodigue. C'est beau, ça, non? Dieu attendait, le Père attendait le retour du Fils prodigue. Mais, en même temps, Dieu reste un Dieu de sainteté. Et il faut avoir cette juste vision des choses, de la même manière qu'il faut avoir une juste vision de notre vie. Nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce. Alors on n'a pas vocation à oublier qu'un jour nous avons été pécheurs, et nous n'avons pas vocation à oublier qu'un jour Dieu nous a sortis du marasme dans lequel nous étions. Parce que cela fait naître de la reconnaissance en nous. Mais souvent, on passe simplement d'un extrême à un autre. Soit on croit qu'on ne voit que la grâce. C'est bon, je suis un enfant de Dieu, je suis tranquille. Non, n'oublie pas d'où est-ce que tu es sorti. Soit au contraire, on reste dans notre passé et on oublie la dimension de la grâce. Et la crainte de Dieu, c'est un équilibre entre les deux. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et Abdias avait cette crainte de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, on voit notamment que la crainte de l'Éternel, elle naît au travers de l'exercice du surnaturel avec le passage des Actes des Apôtres au sujet d'Ananias et de Saphira. Vous imaginez qu'un dimanche matin, on vive ça ? Ce serait violent, hein ? Et pourtant, qu'est-il dit ensuite ? La crainte s'empara des disciples et de l'Église. Et de grands miracles se produisaient. À la base, dans nos vies chrétiennes, pour que Dieu agisse en nous, il y a une nécessité de la crainte de Dieu. Il y a une nécessité du respect de Dieu, de la conscience de qui est Dieu. Et ça, c'est sacrément important. Un jour, un pasteur américain, bon, pasteur tout court d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être américain, va en prison. Bon, c'est parce que c'est une histoire vraie. Et là, il tombe sur l'un de ses collègues. Et il dit, mais voilà, je t'ai connu, étant. Comment est-ce que tu es arrivé là? Quand est-ce que tu as aimé? Quand est-ce que tu as cessé d'aimer Jésus? Et cet homme de se mettre à pleurer, de dire, j'ai cessé d'aimer Jésus à partir du moment où j'ai cessé de le craindre. Et je crois que c'est très vrai. Il y a un lien fort entre amour et crainte. Entre amour et respect. Entre respect et amour. Peut-être que le respect n'est que l'émanation de l'amour, mais il n'empêche qu'il y a un réel lien entre les deux. Abdias craignait l'Éternel. Et il était partagé entre deux craintes, ce brave Abdias. Entre la crainte des hommes qui tend un piège et avoir peur d'Akab. Et avoir peur d'Akab, c'était tout à fait normal. Sincèrement, on pourrait lui jeter des pierres du haut de l'estrade, mais ça ne serait pas fair play. Abdias avait peur d'Akab. Et surtout, il avait peur qu'Élie ne soit pas fidèle au rendez-vous, en disant « Je veux bien monter vers Akab. D'abord, je prends un risque, parce que si je lui dis que je t'ai vu et que je ne t'ai pas arrêté, ça risque de barder pour ma matricule. Mais en plus, le problème, Élie, c'est qu'il te fait chercher quand tu es à droite, et que les gens, quand on sait que tu es à droite et que les soldats viennent t'arrêter, eh ben, l'Esprit de Dieu t'emmène, et puis t'emporte et t'emmène ailleurs, et il n'y a personne. Et si jamais tu me joues ce sale tour, je suis fichu, moi !» Et Abdias, dans son cœur, avait ces deux craintes. Un, la crainte des hommes. Ces deux peurs, plutôt, pour ne pas vous mélanger dans les termes de crainte. Ces deux peurs. La peur des hommes. Et je te le répète, as-tu un Akab dans ta vie? Est-ce que tu vas être obligé de prendre position devant quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un qui, quelque part, te freine dans ta foi. Et tu te diras, mais voilà, il faut que je prenne position, mais j'y arrive pas. Je suis tétanisé. C'est comme si la crainte des hommes était au-dessus de notre confiance en Dieu, ou de notre crainte de Dieu. Je sais que je dois le faire, mais j'ai peur de lui. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Jésus sera au rendez-vous. Jésus s'en ira pas. Il sera au rendez-vous, de la même manière qu'Élie a été au rendez-vous. Jésus sera avec toi. Si tu accomplis ta part, si tu prends cette position spirituelle de dire, voilà, je veux faire un petit peu comme le prophète Michée, ce que l'Éternel m'a demandé de dire, eh bien je le dirai. Je prendrai cette position. Alors, Jésus sera avec toi. Il ne s'enfuira pas. Son esprit n'ira pas ailleurs. Sa promesse n'ira pas ailleurs. Non, il sera avec toi. Il sera avec toi. Prends position. Prends position. Réfléchis. As-tu un Acab ? Je ne parle pas que d'une situation, je parle d'une personne. As-tu un Acab ? Et Dieu, t'a-t-il mis quelque chose sur le cœur ? Quelque chose de précis. Je ne parle pas d'une généralité. Fais-le. Et sache une chose, c'est que le Seigneur Jésus ne s'en ira pas. Bon, je squeeze ma troisième partie, j'arrive directement à la conclusion. Qui est-ce qui a dit Amen ? Qu'y a-t-il à retenir d'Abdias ? Premièrement, l'importance de l'éducation que nous donnons. Et souvenons-nous de ce que nous-mêmes nous avons reçu. Souvenons-nous de l'éducation que nous donnons et souvenons-nous de ce que nous avons reçu. Alors, on peut se dire, voilà, j'ai fait des boulettes, je suis passé à côté et ma prédication n'a pas du tout vocation à être culpabilisante. Souvenons-nous qu'il y a toujours la grâce de Dieu qui vient dessus. Et je vais vous dire en secret, mes parents n'ont pas été parfaits. Ils ont fait plein de boulettes, plein d'erreurs. Mais il y a la grâce de Dieu qui est venue par-dessus. Ça, il faut le garder dans un coin de notre cœur également. Ce n'est pas une raison pour en abuser, la grâce de Dieu. Deuxième point, retenons la peur légitime que Abdias a eue devant Acab. C'était ma troisième partie, donc je la case maintenant. C'est normal d'avoir peur devant certaines situations. C'est normal, quelque part, d'avoir fait de grandes choses auparavant. Et que Dieu nous redemande d'autres différentes. Vous savez, les prophètes qu'il a cachés, quelque part, Abdias, c'était sa petite médaille. Non, devant Élie, attends, j'en ai déjà fait vachement, moi. Hein, et tu m'en demandes encore un petit peu plus. Parfois, on pourrait fonctionner comme ça un petit peu, vous savez. J'en ai déjà fait tellement, Seigneur, laisse-moi en retraite. Non, 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 non. Il y a encore Acab. Héros une fois, héros toujours. Tu as été héroïque dans le passé, ben continue à l'être jusqu'à ce que tu rentres dans la gloire. Retenons qu'il a été faible et puis à nouveau fort. Ça, c'était également ma troisième partie. Les hauts et les bas dans la vie du chrétien, on les connaît. On a nos moments forts, nos moments faibles. Il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça, mais il faut les assumer avec la grâce de Dieu. Retenons qu'il a servi Dieu dans le contexte où Dieu l'a placé et qu'il n'y a pas de hasard. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Abdias ou pas ? Il est beau Abdias, hein ? Que la grâce du Seigneur fasse de nous, de ces hommes et de ces femmes.